Bonjour, bienvenue dans Regard Public. L'adaptation au changement climatique est primordiale et elle nécessite notamment de préserver la biodiversité, d'améliorer la résilience des territoires et de développer la mobilité électrique. Je vous propose dans cet épisode de découvrir des solutions et des initiatives soutenues par le groupe Caisse des dépôts qui vont dans ce sens. Une étude sur le déploiement des bornes de recharge électrique, le programme Nature 2050 qui vise à préserver la biodiversité et puis deux solutions développées par le groupe Aegis pour aider les collectivités à rendre leur territoire plus résilient.
Regard public, les solutions du groupe Caisse des dépôts.
À l'heure de la transition énergétique, le secteur des transports représente la première source d'émissions locales de gaz à effet de serre en France. L'électrification est l'une des solutions pour le décarboner et on observe une forte progression des ventes de véhicules électriques, ce qui mécaniquement engendre un besoin en bornes de recharge, qu'on appelle les infrastructures de recharge de véhicules électriques ou IRVE. Sophie Huet, vous êtes responsable d'investissement en mobilité durable à la Banque des Territoires et puis Tom Champaz, vous êtes ingénieur de recherche à la chaire d'économie urbaine de l'ESSEC. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Tom, une première question pour vous. Où en est-on du déploiement des bornes de recharge ?
Donc, selon les dernières données, on a aujourd'hui près de 75 000 points de recharge qui sont ouverts au public, déployés à fin novembre 2022. On n'est pas encore au rythme à l'objectif des 100 000 bornes déployées à fin 2022, mais le rythme s'accélère de mois en mois. Et ce rythme de déploiement est à mettre en parallèle avec la pénétration des véhicules électriques, qui est soutenue, même s'il représente pour l'instant que 1,5% du parc automobile en Europe.
Sophie, sont donc des besoins conséquents pour prendre ce grand virage vers l'électrique? Est-ce qu'on les a quantifiés?
Oui, on parle d'un besoin de 65 millions de chargeurs en Europe d'ici à 2035, pour environ 410 000 existants. Donc c'est conséquent. Mais c'est surtout une nouvelle infrastructure essentielle au même titre que le gaz, l'électricité, l'eau et qui va s'inscrire dans la coexistence de plusieurs réseaux.
Quels sont précisément les segments de marché des bornes ?
Donc on a d'une part les bornes privées que l'on retrouve principalement dans le résidentiel et c'est là où s'effectueront la très grande majorité des recharges. Mais seulement la moitié des volumes de bornes déployées. Donc ce sont des recharges plutôt la nuit sur des charges lentes en basse puissance et qui sont dédiées aux résidents qui les financent eux-mêmes. Donc à la fois pour les maisons individuelles, où là c'est le propriétaire qui finance l'acquisition d'une prise, et pour l'habitat collectif privé ou public, là c'est la problématique du financement d'une infrastructure collective nécessaire dès qu'un résident en fait la demande. Et donc là, différents opérateurs fournissent ces solutions.
Et puis donc de l'autre côté, on a les bornes dites ouvertes au public.
C'est ça. Donc ce sont des recharges en itinérance, et ce sont des projets pour lesquels il y a une prise de risque sur le trafic qui n'est pas connu à l'avance. Alors il y a trois segments principaux. Le premier segment, ce sont sur les autoroutes. C'est un axe prioritaire de l'État avec de nombreux appels d'offres qui ont été lancés depuis 2020 pour transformer des stations essence en stations électriques ou en créer de nouvelles. On est ici sur de la très haute puissance puisqu'il s'agit de sécuriser des déplacements longs dans un temps court. Le deuxième segment, c'est sur les parkings privés, ouverts au public eux aussi, donc des commerces, des hôtels, des restaurants. Là aussi, la dynamique est bien lancée avec beaucoup d'appels d'offres par des grandes enseignes qui ont lieu en 2022. Et puis le troisième segment, sur les voiries publiques, et ce sont avant tout des projets à l'initiative des collectivités locales, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. L'ensemble de ces sujets sont prioritaires pour la Banque des Territoires, tant sur les bornes ouvertes au public, avec plutôt une intervention en fonds propres via des sociétés projets dédiées, que sur les bornes privées, où là, la Banque des Territoires a créé l'opérateur Logivolt. La Banque des Territoires a déjà engagé 176 millions pour près de 100 000 points de charge privés et ouverts au public.
Comme nous sommes au Salon des maires, est-ce que vous pouvez me rappeler le rôle des élus, le rôle des collectivités ?
Les collectivités ont un grand rôle à jouer dans ce déploiement. Donc les collectivités chefs de file sont soit les AOM, les autorités organisatrices de mobilité qui sont les intercommunalités, soit les syndicats d'énergie départementaux. Donc c'est deux collectivités qui ont la charge de l'élaboration des schémas directeurs IRVE territorialisés qui permettent à la fois de faire le diagnostic et de prévoir un ensemble de scénarios de développement de bornes sur le territoire, en concertant l'ensemble des acteurs mobilisés, à la fois les gestionnaires de voirie, les aménageurs publics et privés, la région, les grands acteurs économiques d'un territoire, et qui permet de prévoir un maillage adapté pour le territoire.
Quelle dynamique constate la Banque des Territoires sur ce sujet ?
Alors, nous constatons que sur beaucoup de territoires, la puissance publique manque de visibilité sur le déploiement et nous ne pouvons que conseiller de déployer les schémas directeurs, d'autant plus que la Banque des Territoires les cofinance à hauteur de 50% via des crédits d'ingénierie.
Et pour aider les élus et les collectivités, vous avez réalisé une étude, Panorama des cas d'usage d'IRVE.
Oui, donc nous avons réalisé une étude, Banque des Territoires et chaire d'économie urbaine de l'ESSEC, qui se veut synthétique et pédagogique pour toutes les collectivités et parties prenantes qui puissent s'emparer de ce sujet. Et donc ce guide est disponible en ligne sur le site de la Banque des Territoires.
En conclusion, est-ce qu'on peut dire que c'est parti pour le tout électrique ?
Oui, il faut être volontariste car les investissements sont conséquents. Mais il faut aussi utiliser la diversité des solutions. Car si l'électrique est un levier puissant, il n'est pas le seul. Il y a d'autres combustibles, l'hydrogène, le biogaz, les biocarburants. Il y a toutes les solutions de rétrofit de véhicules existants. Il y a surtout la réduction de la masse des véhicules et les formes des véhicules plus adaptées à l'urbain. Et puis, on l'oublie trop, il y a des actions non techniques mais comportementales qui peuvent considérablement contribuer à l'abattement du CO2, comme le report modal, l'augmentation du taux de remplissage des voitures par le covoiturage, ou même la manière de charger en moyenne puissance pour limiter l'impact des batteries. Donc ce sont autant de leviers qui sont à mobiliser, et ce sont des sujets sur la Banque des Territoires travail, et dont le déploiement des bornes de recharge fait partie, mais sans pour autant s'y résumer.
Toujours sur le thème de la lutte contre le réchauffement climatique, je vous propose de découvrir une opération menée en partenariat par CDC Biodiversité. Il s'agit du programme Nature 2050. Alors pour cela, j'accueille Margot Décory, chef du programme Nature 2050 à la CDC Biodiversité. CDC Biodiversité, c'est une filiale du groupe Caisse des dépôts qui imagine et adapte des solutions économiques, écologiques et financières pour mettre en œuvre des actions concrètes en faveur de la biodiversité. Également avec nous Florence de Pamplonne, maire adjointe déléguée au développement durable, à l'environnement et au cadre de vie de la ville de Meudon, près de Paris. Bonjour.
Bonjour.
Margot, tout d'abord, Nature 2050, de quoi s'agit-il ?
Alors, le programme Nature 2050 est un outil de financement de projets de restauration d'écosystèmes. Donc, nous mobilisons des financements principalement auprès d'entités privées, ce qui nous permet ensuite de soutenir des porteurs de projets, souvent des collectivités, et d'apporter des financements manquants pour les projets de renaturation.
Pour mettre en place quel type d'action ?
Alors, on peut avoir tout type de restauration, différents écosystèmes. On se concentre sur différentes cibles d'action. On a des restaurations d'écosystèmes marins et côtiers, des zones humides, mais aussi la transition agricole et forestière, par exemple.
Florence de Pamplonne, Meudon et lauréat cette année. Vous aviez déjà été sélectionnée en 2019.
Nous avons été sélectionnés pour un projet qui est réalisé. Il s'agit de la végétalisation du cimetière historique de la ville. Et donc, on l'a fait avec CDC Biodiversité. On avait un objectif, c'était de lutter contre l'effet îlot de chaleur parce que c'était un espace très, très minéral et trop chaud, non seulement pour les riverains, mais aussi pour les personnes qui venaient se recueillir sur les tombes. Et nous voulions également favoriser la biodiversité dans ce lieu qui est par essence protégé.
Et cette année, vous avez un projet qui concerne une grande place de Meudon.
Oui, alors c'est une place qui fait 3500 m2, qui est dans le bas de Meudon, qui est très, très minérale. À proximité, il y a une crèche et une aire de jeu pour enfants qui sont aussi minérales et qui sont dans le projet. Il n'y a pas de verdure. Ces lieux représentent une coupure dans la trame verte qui est présente sur le territoire communal. Donc, on voulait vraiment recréer un lien. Et nous avons trois objectifs pour ce projet. Le premier, c'est de lutter contre l'effet îlot de chaleur. Le deuxième, c'est de favoriser la biodiversité. Et enfin, il faut permettre de recréer du lien social sur cette place. Pour cela, nous allons planter des arbres et créer des fosses filantes. Alors les fosses filantes, c'est une désimperméabilisation entre les arbres dans lesquels on met des plantations. On va créer des noues. Alors la noue, c'est un espace humide dans lequel on met des plantations et on récupère ainsi les eaux de pluie. Et ça nous permet aussi de limiter le ruissellement et les inondations. On va bien sûr installer des hôtels à insectes, des nichoirs, des abreuvoirs. Et puis choisir des végétaux qui sont capables de résister à la sécheresse. On a vu ce qui s'est passé l'été dernier. Et ça nous permettra aussi de préserver l'eau et de limiter, parce qu'on va limiter l'arrosage. Bien sûr aussi, on met des végétaux qui sont locaux et on essaye de mettre des végétaux mellifères. Comme ça, ça préserve les insectes. La conclusion du projet pour la place Tony de Graaf de Meudon nous permettra d'accentuer le potentiel de séquestration de carbone sur la ville. Mais ça permettra aussi d'apaiser visuellement la place, d'y limiter le bruit parce qu'il y a beaucoup de bruit dans ce quartier et d'en faire un espace de vie favorable parce qu'on n'oublie pas les liens sociaux entre les riverains. Et ces derniers sont très impliqués dans le dossier puisque c'est au départ une demande qui avait été proposée dans le cadre du budget participatif et par le conseil de quartier de la ville. Donc on va co-construire ensemble ce projet.
Le programme Nature 2050, il est vraiment important pour vous ?
Il est très important parce que sans ce programme-là, on n'aurait pas eu les moyens tout seul de financer ces projets. C'est vrai que Meudon, c'est un poumon vert aux portes de Paris. Néanmoins, il y a certains quartiers qui demeurent très minéraux et qui ont besoin d'être naturés et protégés. Donc, CDC Biodiversité et la Métropole nous ont permis de mettre en œuvre, grâce à leur soutien et leur accompagnement, une partie de la politique environnementale de la ville. Je précise aussi, parce que je suis conseillère régionale d'Île-de-France, que la région va dans le même sens et elle réalise beaucoup d'appels à projets sur ces sujets-là.
Margot, comment les acteurs économiques peuvent également s'engager dans ce programme ?
Alors, les acteurs économiques, ils ont une possibilité d'agir à différents niveaux. Tout d'abord sur leurs propres activités, évidemment. C'est souvent ce que les stratégies RSE mettent en place. Il y a aussi une action sur leur foncier, suivant les entreprises, les entités économiques. Ils ont leur propre foncier et donc ils peuvent agir à ce niveau-là. Et en fait, le programme Nature 2050 leur permet d'agir à un autre niveau, à l'échelle du territoire, car on sait qu'il faut adapter le territoire pour qu'il devienne résilient dans son ensemble. Et c'est vraiment l'action du programme Nature 2050 d'avoir cette action triple, biodiversité, climat et territoire.
Florence, vous vouliez rajouter un mot ?
Oui, bien sûr, j'invite tous les élus à s'engager aux côtés de CDC Biodiversité parce qu'on est vraiment accompagnés dans nos projets. C'est très important, je le répète, sans eux, on n'aurait rien pu faire. Donc n'hésitez pas, contactez-les et vous aurez une réponse en plus rapide. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. C'est très satisfaisant de pouvoir faire avancer ces projets quand on est engagé dans une commune. Et de même si c'est peut-être la politique des petits pas, c'est pas grave, on fait chacun notre part à notre échelle. Et je remercie vraiment CDC Biodiversité de nous avoir permis de réaliser ce deuxième projet. Et à mon avis, il va y en avoir d'autres.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Nous parlions d'adaptation au changement climatique. Je vous propose de parler de deux solutions concrètes pour aider les collectivités à rendre leur territoire plus résilient. Elles sont développées par le groupe Aegis, groupe français d'ingénierie, présent sur tout le territoire. Aegis se positionne comme partenaire des collectivités en conseil ingénierie dans tous leurs besoins d'aménagement et de construction durable. Bonjour Pauline Pouget et Léo Roudil.
Bonjour.
Bonjour.
Pauline Pouget, vous êtes ingénieure asset management et cofondatrice d'Evares. Et puis Léo Roudil, vous êtes responsable du service risque inondation et ressources en eau et cofondateur de Vigirisque. Alors Pauline, première question, c'est quoi tout d'abord la résilience des territoires ?
Alors, vaste sujet. La résilience est un terme à la mode qu'on utilise malheureusement à tort et à travers. Et il faut savoir que la définition de la résilience n'est pas aussi simple qu'elle n'en a l'air. C'est un vaste sujet. Alors nous, pour notre part, on a une définition qui se base sur trois capacités. La résilience est tout simplement la capacité à résister pendant la crise, à absorber une crise et à récupérer après une crise. Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il n'est pas question de parler de définition, mais plutôt d'action pour avoir des territoires plus résilients et surtout d'être en symbiose avec les différentes parties prenantes.
Vous parliez d'action. Justement, parmi vos solutions de résilience des territoires, il y a Evares. De quoi s'agit-il ?
Alors nous, on propose Evares qui a été pensé pour vous, les collectivités territoriales, pour vous aider à adapter vos territoires. Eh bien, c'est tout simplement un outil d'aide à la décision pour piloter la résilience des infrastructures. Donc Evares, c'est une méthodologie. C'est une solution basée sur la sûreté de fonctionnement qui permet de prendre en compte l'effet domino, c'est-à-dire les interdépendances entre les actifs. Prenons un cas très simple. Vous avez une route qui mène à un hôpital, c'est l'unique route qui mène à l'hôpital. Et vous êtes au bord de mer. Eh bien, si vous avez un aléa climatique, c'est-à-dire par exemple une inondation, vous pouvez avoir la route inondée et l'hôpital ne devient plus accessible. Mais si vous évaluez la résilience de la route séparée de l'hôpital, vous aurez des résiliences convenables. Mais là, le fait qu'il y ait une seule route qui mène à l'hôpital, vous avez tout votre écosystème qui n'est pas résilient.
Alors, ça veut dire que vous étudiez de nombreux risques ?
Eh bien, tout à fait. On étudie tous les aléas auxquels la collectivité territoriale est soumise, c'est-à-dire l'incendie, l'inondation, les coulées de boue, et j'en passe. Et surtout pour tout type d'actifs, donc les infrastructures publiques, les hôpitaux, les collèges, les lycées, les infrastructures routières, les infrastructures linéaires, ainsi de suite.
Quelle méthode utilisez-vous ?
Eh bien, alors on utilise une méthode basée sur trois principes. Tout d'abord, la première étape, c'est d'acquérir les données, donc soit en open source, soit auprès des gestionnaires, que ce soit par exemple les rapports d'inspection d'ouvrage, les diagnostics, les études, qui nous permet ensuite de pouvoir évaluer cette résilience, qui est pour toutes les infrastructures critiques, tous les actifs qui vont être essentiels pour la survie de la population, que ce soit les réseaux d'eau, les réseaux de transport, les hôpitaux. À partir de ces données, on va les analyser, les trier, les synthétiser pour avoir in fine une évaluation de la résilience du service qui doit être rendu par cet actif. Et ensuite, on va proposer des améliorations de cette résilience et enfin, on va budgétiser ces investissements.
Et les résultats sont présentés comment ?
On a un support numérique interactif qui va présenter les résultats de façon didactique. Et justement, à ce propos, notre plateforme doit être testée et nous sommes à la recherche d'un territoire qui souhaite s'acquitter d'une solution comme Evares.
Donc on peut vous contacter pour cela. C'est un outil qui est rapide à mettre en place.
Eh bien, tout à fait. Imaginez, vous avez un écosystème de 5 à 10 actifs à étudier. Eh bien, cela prend environ un mois.
Léo Roudy-Légis propose également aux acteurs du risque inondation un outil d'aide à la gestion de crise qui utilise l'intelligence artificielle. C'est Vigirisque.
Oui, tout à fait. Donc, c'est une solution qui repose sur un logiciel participatif et connecté qui a été développé donc, grâce à notre expertise donc, fort de 70 ans dans le domaine de l'ingénierie de l'eau à l'échelle mondiale au service des territoires et de leurs acteurs et d'une start-up, UbiPlace, dont Aegis est actionnaire, qui est spécialisée dans la collecte de données de terrain et le développement de solutions numériques. Et donc, dans un contexte de changement climatique, on a fait le constat que l'enjeu de la gestion des inondations était particulièrement fort. Notamment, si je prends l'exemple de la France, les inondations causent en moyenne 800 millions de dommages par an. Il est prévu une augmentation de ces dommages de 150% à l'horizon 2050. Or, on sait aussi, en parallèle, que 35% de ces dommages pourraient être évités si des dispositifs de gestion de crise efficaces étaient mis en place. D'où notre proposition, donc Vigiris.
Concrètement, comment est-ce que ça fonctionne ?
Alors, notre idée, c'est vraiment de valoriser les données de terrain. Donc, ces données de terrain peuvent provenir de différentes sources. Ça peut être des capteurs qui sont installés sur le terrain, donc des stations de suivi de cours d'eau, des caméras de vidéosurveillance. Mais ça peut aussi venir d'utilisateurs, et c'était vraiment notre volonté, que ça soit collaboratif, c'est-à-dire que les services techniques des collectivités peuvent y participer, les services de secours, le citoyen lambda, et également aussi valoriser les données ici des réseaux sociaux. Ensuite, on utilise à partir de ces données de terrain une intelligence artificielle qui permet de cartographier en temps réel, c'est vraiment la plus-value de l'outil, les surfaces inondées. Donc ensuite, on réalise un croisement automatique des données d'enjeu, donc ça peut être des bâtiments, des infrastructures publiques, des routes par exemple, avec la zone inondée en temps réel pour identifier les secteurs les plus impactés. Et donc on évalue la vulnérabilité et les dommages causés par les inondations sur ces enjeux. La plateforme permet également de préconiser des actions de gestion de crise plus ou moins élaborées. Et ensuite, nos équipes d'ingénieurs apportent leur expertise aussi pour aider les acteurs dans leur prise de décision.
En quelques secondes, l'interface, comment se présente-t-elle ?
Alors, l'interface, elle est simple. On l'a voulu simple parce qu'on parle de gestion de crise. Les données sont accessibles sur Internet, sur mobile. Et donc, on a des cartographies dynamiques de zones inondées avec des codes couleurs facilement lisibles et interprétables. On a également un ensemble de tableaux et d'indicateurs qui permettent de suivre l'ampleur de l'événement, donc notamment les montants de dommages, les bâtiments les plus touchés, les routes qui sont inondées. Et puis on a également une main courante qui permet de suivre l'ensemble des données et de favoriser la prise de décision par les élus, notamment dans le cadre des plans communaux de sauvegarde. Voilà. Et donc on a pu également tester la solution par rapport à un retour d'expérience qui montre que la solution est fiable. Mais on est également à la recherche de nouveaux territoires pour tester la solution dans différents contextes.
Ok, le message est passé. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour écouter les autres épisodes et en savoir plus sur les solutions évoquées, rendez-vous sur le site du groupe Caisse des dépôts. Vous pouvez également écouter ce podcast sur le site de RMC, rubrique podcast. À bientôt.